Radio Barque, une deuxième partie. Nous nous retrouvons avec notre invité Cyril Dowling pour son roman Taman Asli. Alors Cyril Dowling, vous avez expliqué un certain nombre de choses pour arriver à appréhender ce roman. Rappelons que la base, enfin du décor si je puis dire, c'est Kuala Lumpur. Alors expliquons que c'est la capitale de la Malaisie. Un endroit où vous avez vécu, vous, si vous permet de situer ce roman dans cette ville et surtout dans ce milieu assez particulier, et on y revient un petit peu. Mais là, donc, vous avez dévoilé un petit peu le cadre, la façon dont vous avez voulu construire ce roman. Donc, des amants se séparent, ils ont demandé à un journaliste américain rencontré fortuitement de prendre une photo. 20 ans après, ce jour, ils se retrouvent. Alors, le journaliste et l'homme. C'est là où véritablement ça enclenche la narration.
Une reconstruction du passé et de tout ce qu'il y a derrière cette photo, des amants qui ont voulu se faire photographier nus et enlacés pour se dire adieu.
Et alors, comment est structurée la suite? Comment avez-vous imaginé de la structurer? Parce que ce sont un peu ce qu'on appelle des flashbacks, quoi, des retours en arrière.
Oui, donc on retourne en arrière avec la rencontre de ces deux personnages déjà. Qui vont commencer une course-poursuite entre Paris et la Malaisie.
Je te perds, je te retrouve, je te repère, je te retrouve.
Oui, on a surtout le personnage d'Alastair, donc le jeune homme qui voit un amour qui est un peu perdu lui-même, qui se prend d'amour et d'obsession pour cette femme malaisienne, extrêmement célèbre d'ailleurs, qui est une héritière d'une compagnie d'armement.
Qui a une grande notoriété un prestige chez elle.
Voilà, tout à fait. Et donc, elle va s'incarner petit à petit à ses côtés. Ils vont se croiser, se retrouver, jusqu'à vivre une grande passion, dont on sait dès le début qu'elle sera sans lendemain. Voilà, ça c'est le fil conducteur, avec en arrière-fond beaucoup de personnages secondaires également.
Et alors, ces personnages secondaires, vous-même qui avez vécu dans cette ville, mais qui avez vécu à un certain nombre d'autres endroits, j'imagine que vous les avez puisés dans votre expérience aussi de ces déménagements successifs.
Oui, tout à fait. Tout à fait. L'ensemble, c'est vrai que je me suis inspiré de personnes que j'ai vraiment connues quand j'étais jeune, je pense, qui ont marqué mon imaginaire. Donc il y a des personnages secondaires, en fait, avec une intrigue amoureuse secondaire entre deux autres personnages. Et puis toute une série de petits personnages qui apparaissent donc de façon assez stéréotypée, comme toile de fond. Et j'ai voulu que mon héros et mon héroïne se détachent de cette jungle de personnages qui sont là pour donner l'illusion de la vraie vie, en fait.
Oui.
Parce que c'est un roman, voilà. J'espère que les lecteurs, c'est le cas jusqu'à présent, les lecteurs me disent que ça, ils s'identifient. On a tous eu 20 ans, on est tous passés par cette transition de l'adolescence à l'âge adulte, avec toute cette série de chimères, toute cette série de personnages qu'on a croisés même brièvement et qui nous ont fascinés un instant, qui nous ont inspirés. Donc c'est ce que j'ai essayé de recréer dans ce roman.
Voilà, mais il reste toujours donc cette femme qui symbolise pas mal de choses finalement pour... Alors, les deux autres, le journaliste new-yorkais et Alastair, l'Australien, sont des occidentaux, avec le regard occidental. Cette femme, rappelons-le, elle est musulmane, elle est malaise.
Malaisienne, oui,
malaisienne,
absolument.
C'est comme ça que ça dit. Oui, bon, il y a toujours donc cette espèce de presque de hiatus entre leurs deux cultures.
Oui, un petit peu, oui, tout à fait. Il y a ce décalage. Comme vous l'avez dit, c'est une femme qui incarne la modernité, qui est née avec un destin, puisqu'elle a hérité très jeune d'une compagnie d'armement. Voilà, c'est une riche héritière.
Mais active.
Chef d'entreprise, qui est aussi une égérie du féminisme en Malaisie. Elle est considérée comme... Alors, on est dans les années 80 qui découvrent avec émerveillement qu'on peut porter une femme au nu, surtout quand elle est belle, riche et qu'elle a un certain pouvoir.
Et qu'elle peut être chef d'entreprise.
Tout à fait. Et en secret, Nour, c'est un destin qu'elle n'a pas choisi. Elle est nostalgique, en fait, de cette liberté, de cette jeunesse, de cette insouciance qu'incarne Alastair, son amant. Et elle se prend au rêve de se recréer une vie à ses côtés.
Mmh. Oui.
Après, comme vous l'avez dit, c'est, je pense, une allégorie de la Malaisie en elle-même, donc la Malaisie, un pays d'Asie du Sud-Est, qui, à ce moment-là, cherche sa place sur l'échiquier international, parce que c'est une économie florissante, une société en pleine mutation. Au moment où se passe le roman, il y a une libération des mœurs en Malaisie, donc un peu une libération sexuelle, une libération des mœurs,
etc. La femme Nour est un
peu
un symbole de cette chose-là aussi.
Oui, elle en est le symbole. Et la promesse d'un retour, il y a beaucoup de personnages musulmans dans le roman qui réclament un retour à l'ordre, à la rigueur de l'islam également. Donc elle est dans cette ambiguïté entre tradition, modernité, et elle incarne aussi l'identité de ce pays en pleine mutation. J'ai voulu, voilà un peu comment j'ai composé le personnage. Je me suis inspiré évidemment pour ce personnage, c'est un peu une femme fatale, c'est un peu une Mata Hari des temps modernes. Et je me suis à la fois basé sur une personne réelle, en même temps, dans la construction du personnage, je me suis nourri, bien sûr, de toutes les femmes que j'ai pu aimer dans ma vie.
Un auteur, forcément. Même si dans votre roman, le narrateur est censé être un Américain journaliste, on sait très bien qu'il y a l'auteur et le narrateur et qu'il ne faut pas confondre l'un et l'autre. Et alors, Cyril Laoling, ce que je trouve assez intéressant, parce qu'original aussi, c'est... comment dire, les circonstances qui font que ce roman a vu le jour, parce qu'il avait été écrit par vous-même, mais il y a fort longtemps, et dans des circonstances différentes.
Oui.
Alors, comment ça s'est passé ?
Alors, ce roman, je l'ai écrit il y a plus de 30 ans.
Oui, pratiquement à l'époque dans laquelle vous le situez.
Tout à fait. Je l'ai écrit il y a plus de 30 ans. Peu après avoir vécu les événements qui m'ont inspiré, en fait, parce que ce roman est basé sur des faits réels, pour la plupart, romancés. Mais... je l'ai écrit à chaud, en fait, dans la foulée.
Oui, après mais avoir ça, ça veut dire histoire. Que vous aviez déjà jeune la plume qui vous démangeait.
Ah oui, depuis tout petit. J'ai toujours écrit. C'est la Malaisie qui m'a fait écrire, je pense, puisque j'habitais là-bas. Et que j'écrivais, à l'époque on s'écrivait des lettres, j'écrivais des longues lettres à ma famille, et j'ai réalisé que j'écrivais 10-12 pages par jour.
Oui,
c'est ça qui m'a rendu écrivain. Donc ce roman, je l'écris, on va dire, en 90. Je l'oublie. Il est récupéré par ma maman, avec toutes les lettres que j'écrivais, qui met tout dans une grosse boîte. Ma maman disparaît, il y a déjà fort longtemps. Et assez récemment, en 2019... à l'occasion d'un déménagement, je retrouve cette caisse.
Ah, il a fallu un événement fortuit de toute façon.
Voilà, on retrouve cette caisse avec tous mes écrits dedans. Il y avait marqué dessus la prunelle de mes yeux. Donc c'est un peu ce que m'avait laissé ma maman en héritage. Je l'ouvre avec ma fille, on redécouvre tous ces courriers, tout ce texte. Et c'est ma fille qui m'a dit « Papa, il faut absolument que tu écrives ce roman, que tu le publies. » Donc je m'y suis repenché. Je l'ai redécouvert en fait comme un lecteur. 30 ans après, et je l'ai réécrit, ce qui a été, je dois vous dire, une longue négociation entre l'homme que je suis aujourd'hui et le jeune homme que j'avais été à l'époque.
C'est ça, parce que vous ne l'avez pas publié tel quel, vous l'avez vraiment revu.
Je l'ai retravaillé, riche de toute l'expérience que j'avais aussi, riche aussi des études littéraires que j'avais faites entre-temps. Mais j'ai essayé de rester fidèle à comment vous dire, au lyrisme, au romantisme du jeune auteur.
Oui, de ne pas trahir l'état d'esprit d'origine.
Ne pas
trahir
l'état d'esprit. Et d'autant plus que j'ai vu l'impact que ça avait sur ma fille et sur ses amis. J'ai vu que c'était un roman qui, malgré son âge, parle à la jeunesse d'aujourd'hui.
Oui.
Il s'identifie complètement. Donc j'ai essayé, voilà, de rester fidèle à ces envolées romantiques, à ce lyrisme, à ces fuites en avant, etc.
Mais ça, sur l'écriture et sur la technique de l'écriture ou de la réécriture, peut-être faut-il dire réécriture, la question qu'on peut se poser, c'est ben, quelle partie d'apport nouveau sans justement trahir l'original, parce que c'est un petit peu, enfin, on s'interroge sur le dosage, si je puis dire, oui, de la nouveauté par rapport au substrat du roman écrit, encore une fois, il y a 30 ans.
Oui, alors c'est surtout une réécriture du texte, des tournures. Aussi, j'ai voulu apporter, parce qu'entre-temps, j'avais fait de longues études de littérature anglaise qui ont nourri mon imaginaire et qui ont nourri, voilà, toutes ces choses que j'aime.
Oui, il y avait des piments supplémentaires.
j'ai remis dedans des choses que j'ai empruntées, si je puis dire, ou des motifs que j'ai aimés dans la littérature anglaise que j'ai étudiée, notamment pour ce côté amant maudit, je me suis inspiré des Hurlevent, hein, je peux le dire, il y a des emprunts
assumés. Donc des sœurs Brontë.
Voilà, des sœurs Brontë. Pour tout le côté haute société, avec cette mélancolie qui se dégage, j'ai été influencé par Gatsby le Magnifique, qui est mon roman américain préféré. Voilà, donc la différence, elle est là. Après, au fur et à mesure que je réécrivais, je connaissais pas moi-même la fin. Et je me laissais un peu dans mes longues conversations avec le jeune homme que j'avais été. Il me disait quelque part, aie confiance. Fais confiance à qui tu étais quand tu étais jeune et laisse-toi porter par cette histoire.
Oui, alors.
Donc, des fois, je trouvais ça un petit peu rocambolesque. Mais finalement, quand j'ai relu le tout, ça m'a plu. Je me suis reconnu. Je me suis dit, c'est le livre que j'aurais voulu écrire.
Et alors, Cyril Dowling, mis à part les apports emprunté à la littérature auquel vous avez fait allusion, sur le plan de l'écriture ou de la réécriture elle-même, est-ce que, la question est peut-être un peu bête, mais est-ce qu'on écrit de la même façon à 15, 14, 15 ans, 16 ans et à 40 ans, ou est-ce que véritablement on écrit différemment?
Alors c'était plutôt 20 et 50.
Ou 20 et 50, ça fait 30 ans d'écart.
L'homme de 50 ans disait, on se calme. Doucement.
Oui, voilà.
On se calme, c'est un peu trop. On mesure un peu ses élans. Et puis, des fois, je me disais, bon, allez, c'est parti comme ça. C'est ce qui fait ce lyrisme, c'est ce qui fait ce côté foisonnant, c'est ce qui fait la beauté du roman. L'adjectif qui revient le plus chez les lecteurs et les critiques, c'est flamboyant.
Ah, oui, style flamboyant.
Cette flamboyance, elle ne vient pas de l'auteur que je suis aujourd'hui. Elle vient du jeune homme que j'étais.
Voilà. Et alors, sur le plan purement technique de l'édition, avez-vous eu des difficultés à trouver un éditeur, par exemple, parce que c'est le premier roman,
oui,
sous votre nom que vous publiez?
Oui, tout à fait. J'ai mis un an. J'ai mis un an et j'ai trouvé l'éditeur qu'il fallait pour ce roman. Un éditeur spécialisé sur l'Asie du Sud-Est.
Oui, voilà,
qui
déjà.
Qui a voulu ce roman, qu'il a beaucoup aimé. Qui le défend et qui, lui, a eu une relecture très intéressante de précision historique et géographique sur toute la partie qui se passe en Malaisie.
Qui vous a encouragé à repréciser les choses, peut-être?
Par exemple, il me disait, ça, c'était pas possible à l'époque, ou à tel endroit.
Des anachronismes.
Ou... Voilà, ce genre de petits anachronismes ou de petites inexactitudes. Donc, en fait, il a réancré le roman dans un réalisme très précis. C'est vrai aussi pour la partie qui se passe à Paris. Vous retrouverez dans ce roman les chansons de l'année 1987 ou tout cet univers parisien des années 80. Il a vraiment eu ce travail de précision, de réalisme. Mais pour la partie qui se passe en Asie, seul un spécialiste de l'Asie pouvait être capable de voir certaines choses.
Oui, donc il y a eu un souci quand même d'authenticité historique.
Oui, tout à fait.
Dans la réécriture.
Oui, parce que mon éditeur est spécialiste de l'Asie du Sud-Est. il lit, il vend beaucoup de livres en Asie du Sud-Est. Il fallait que les lecteurs là-bas se retrouvent.
Ne soient pas trop dépaysés, en quelque sorte.
Voilà, ne trouvent pas des choses dans lesquelles ils se reconnaîtraient pas.
On marque, Cyril Dowling, une deuxième pause.